de Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Tu t'as dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce 35e Instant Sport, votre magazine d'actualité sportive lozérien, avec presque tous nos chroniqueurs aujourd'hui. Lui aurait pu être absent, il aurait pu céder aux sirènes d'Hollywood après sa prestation remarquée mercredi soir dernier sur la Maison France 5, mais il a décidé de rester fidèle à notre émission. On le remercie, capitaine du basket Cosmandois, Aurélien Lacasse, bonjour.
Bonjour à tous.
Quelle classe Aurélien.
Merci, merci.
Surtout et... le costard.
Surtout le costard, ah, ouais. T'as aimé ?
Ah, j'ai bien aimé, ouais.
Par contre, au niveau de la chemise, je suis pas encore au niveau de Patrick. Hein.
Non.
Pourtant, j'avais dit à Ludo de te conseiller, mais bon, non, mais t'as, chacun son style, tu as eu raison. Voilà.
Sobre.
Voilà, sobre.
Exactement. D'ailleurs, tu pourrais venir à l'émission en costard aussi. Hein.
Eh bien, écoute, quand l'émission sera diffusée en direct sur le site de 48FM, ça sera avec plaisir.
Alors, c'est noté, Aurélien, très bien, parce que ça va venir un de ces jours. Luc n'est pas là, Aurélien, aujourd'hui, comme toi, avant, il s'est blessé samedi soir. Il a pris une béquille.
Ah, ça fait mal une béquille, ça fait mal.
Ouais, ça fait mal.
À la tête, des fois aussi.
Alors, on allait voir le match avec Laurent samedi soir, tout comme le match des féminines, d'ailleurs, au hand, pour des défaites dans les deux cas. Tiens, en parlant de Laurent et de défaite, j'aurais pu dire que rien ne va plus pour l'équipe 3 de l'EFL, mais notre quotidien midi libre s'est trompé parce que Luc est blessé, donc il fait un peu n'importe quoi. Voilà. Alors, vous n'avez pas perdu 4-1 au Masgro.
Vous lisez le midi libre aujourd'hui, messieurs, le score est inversé. Bien sûr, nous n'avons pas perdu 4-1 au Masgro.
Tu n'as jamais perdu au Masgro de ta vie.
Jamais de la vie, je perdrai 4-1 au Masgro. Et donc voilà. Belle victoire à l'extérieur avec un temps printanier au Massegro.
Est-ce que tu as marqué un but ?
Oui, j'ai mis le plus important du match, celui qui assomme l'adversaire, le quatrième.
Alors vas-y, raconte-nous un peu comment. Un coup franc, une tête,
une
corner.
Action, une action, et puis ça finit par un tir du gauche et but.
Eh ben, très bien.
Voilà.
Bravo. Salut Patrick.
Salut à toutes et à tous.
Alors toi, t'as pas joué ce week-end ? Il n'y a pas de badminton ?
Non. Il y avait un tournoi Marjol, mais je ne l'ai pas fait.
Bah écoute, on ne peut pas être partout. Hein.
Exactement.
Alors, notre invité n'a pas joué non plus, car comme chaque saison et quand l'hiver arrive, eh bien, il va avoir 20 matchs à rattraper au printemps. L'équipe Nord-Lozère, Vivien Fontune, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs.
Alors, il faut préciser...
Et aux auditrices aussi.
Et aux auditrices.
Bien entendu.
Parce qu'il y a beaucoup d'auditrices qui nous écoutent parce que Laurent est là, mais bon, ouais. c'est
parce que je parle d'elle aussi, c'est pour ça.
Parce que tu parles d'elle aussi, exactement. On en avait parlé, Patrick, de ce nouveau stade à Saint-Alban, de ce synthétique, mais qui n'est pas homologué, c'est ça ?
C'est ça, oui. Parce que c'est vrai que ce week-end, si on avait programmé le match à Saint-Alban, il aurait certainement pu se jouer. Or, il n'est pas encore homologué, en espérant que ça va arriver incessamment sous peu, quoi.
Il est homologué pour le district, c'est ce que Vian disait juste avant qu'on commence l'émission. Donc là, l'équipe réserve de l'ENL peut évoluer sur ses installations, mais l'équipe 1 qui évolue bien sûr en Ligue Auvergne ne peut pas encore jouer. Et donc c'est vrai que j'ai eu la chance au mois de juin, lors de l'Assemblée Générale de la DDFL, de pouvoir visiter ces installations, aussi bien la pelouse, marcher dessus, enfin le synthétique, mais aussi de pénétrer à l'intérieur des vestiaires. Et je dois dire que ce sont des installations magnifiques à tous les niveaux. C'est bien sûr un synthétique dernière génération. Et puis à l'intérieur, les vestiaires m'ont fait vraiment un superbe effet. Vivienne, je pense que tu peux confirmer, c'est vraiment un superbe stade et les tribunes sont juste au-dessus des vestiaires.
Ouais, c'est vrai que c'est un super outil. Puis ça peut servir aussi pour l'école de foot, voilà, les jeunes. C'est vraiment intéressant, surtout sur une région comme chez nous où l'hiver est assez marqué.
Oui.
Donc voilà, c'est bien de pouvoir jouer sur ce genre de synthétique. Hélas, pour l'instant, on va attendre encore un peu pour l'équipe première.
Ok, on avait.
Ce qui est ballot, c'est que c'est le NL joue en Ligue Auvergne, mais vu que c'est en Lozère, c'est la Ligue Languedoc-Roussillon qui doit venir le valider. C'est ça. Donc c'est des gars de Montpellier qui doivent monter à Saint-Albin et bon, peut-être ça leur dit pas non plus. Ouais, enfin, moins de faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ils passeront pas dans le coin. Hein,
il faut aussi préciser que les cahiers des charges sont totalement différents. C'est pour ça qu'un district peut valider un stade et pas une ligue. Et donc c'est pour ça que ça prend du temps parce que les normes ne sont pas les mêmes au niveau des instances.
Alors on avait dit qu'on t'inviterait après 3 buts, ça arrivait assez rapidement. Hein.
Oui, mais monsieur Laurent Julien m'a mis un peu la pression et de suite j'ai répondu présent pour venir à l'émission, donc voilà.
Ton coach me remercie d'ailleurs.
Ouais.
Maintenant tu peux t'y remettre à marquer des buts.
Depuis je marque plus aussi. Hein.
Voilà, c'est grâce à nous en fait, c'est grâce à l'invitation que t'as marqué.
C'est ça, ouais.
Allez, on reviendra sur le NL en fin de première partie d'émission. On va commencer par le gros score du week-end, une nouvelle fois c'est en basket. Défaite du BCM en régional 2, masculin, Mende perd à domicile contre Saint-Gilles du Fesque, 90-43. Mais attends Aurélien, parce que Castelnau-le-Lez a fait mieux et perd à Fabregues 101-39.
Ah oui, quand même.
Ouais,
ah
donc ouais. C'est pas mal, vous n'êtes pas les pires du week-end. Bouh, les nuls, Castelnau.
On va pas trop la ramener parce qu'on les a pas joués, Fabregues, encore. Donc,
Par contre, Castelnau, vous les avez joués.
Castelnau, on les a joués, ouais.
Vous avez pris une tôle, non?
C'est ça. Bon. Donc c'est pour ça que je les ramène pas.
C'est pas grave. Mais j'ai vu qu'il y a une équipe qui a gagné aucun match comme vous. Mons, ouais. C'est quand Mons, voilà. Qu'on vient de vous voir? Tu le sais ou non?
Alors, normalement, c'est le 12 décembre. Ok. À domicile, mais ils risquent d'être déplacé à fin janvier, donc je vous tiendrai au courant
pour te permettre de revenir.
Je sais pas.
Ton retour, tu sais ou pas?
Mais là j'en ai, ça fait un petit peu plus de mois là que je me suis cassé le pouce, donc j'en ai encore là pour 2015, c'est sûr que je reviendrai pas, donc ça risque d'être autour de mi-janvier ou fin janvier.
D'accord, bon, parce qu'ils ont besoin de toi. Hein. Donc Laurent, avec Laurent, on est allé voir ce match. Laurent, il n'y a pas grand-chose à dire. Saint-Gilles était supérieur.
Ouais, Saint-Gilles qui pratiquait un pressing très très haut, puisque chaque fois les Mendois étaient sous leur panier, ils n'arrivaient même pas à sortir de leur zone. Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et donc du coup, j'avais beaucoup de peine pour cette équipe mendoise, parce que quand tu n'arrives même pas à sortir de ton camp, c'est un peu compliqué. À l'inverse, le pressing mendois se faisait bas, donc j'ai demandé à Luc un peu des explications pourquoi ils font pas pareil. Donc il m'a dit que c'était très dur à faire un pressing haut comme ça, et donc ils le font pas. Et je trouve que c'est dommage parce que finalement c'est quand même plus facile de défendre haut que de défendre bas. Quoi.
Voilà, ouais. Donc l'équipe de Saint-Gilles, donc qui joue les premiers rôles et qui est premier du championnat, a fait pendant tout le match une zone presse tout terrain, effectivement. Mmh. Donc ça implique beaucoup de débauche d'énergie, c'est très physique comme défense. Donc c'est vrai que nous on a pas trop ces qualités-là, donc c'est pour ça qu'on la fait pas. Mais c'est vrai que quand elle est bien faite, c'est une zone qui est très efficace et qui apporte justement beaucoup d'interceptions, de récupération de ballons, et on peut vite marquer un contre-attaque quand on fait ce genre de défense. Ouais.
Oui,
on peut et même, c'est ce qui est un peu arrivé lors du match de samedi soir.
On peut imaginer qu'une équipe justement qui joue le haut du tableau et qui rencontre justement une équipe de bas de tableau, sa volonté c'est justement de faire l'écart immédiatement, et donc c'est pour ça qu'elle a dû adopter cette tactique, parce qu'en principe cette zone que tu fais tout terrain, tu le fais en principe en fin de match. Quand tu as 7, 8 ou 9 points de retard.
Pour remonter,
donc,
ouais.
Voilà, et donc tu essayes de... Donc là, le faire en début de match, c'est justement la volonté, je pense, de vous mettre la tête sous l'eau pour faire un écart d'entrée. Et voilà, le match est quasiment plié au bout d'un quart temps ou même à la mi-temps.
Ça marchait, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Généralement, c'est le genre de défense qu'on fait quand on a un petit peu de retard, voilà, ou quand le score, ouais, est très serré, justement, pour essayer de perturber l'adversaire et récupérer des ballons faciles et de marquer des paniers en contre-attaque. Donc là, ils l'ont fait dès les débuts du match, et ça a payé, puisqu'à la mi-temps il y avait déjà 25 points d'écart, donc c'est vrai que ça a été compliqué. Ouais.
Et à la mi-temps il y avait pour Mende un 0 sur 7 au lancer franc aussi, ça m'a un peu étonné, c'est peut-être un point à travailler, parce que les lancers francs, c'est que c'est important.
C'est le mal français.
Ouais, c'est mal français.
C'est le mal français, c'est ça.
Saint-Gilles du Fesque, ça allait. Voilà, hein,
ouais, mais j'avais pas des Américains naturalisés, je sais pas.
En tout cas, Luc a été très bon, mis à part cette béquille. Il était très drôle, il boitait sur le bord du terrain, mais il continue à s'échauffer pour pouvoir rentrer. Il a bien joué. Il était face à un Golgoth, il s'est pris des coups de coude.
Non, mais c'était fait exprès, c'est pour l'éliminer, quoi. Il était ciblé.
Et généralement, c'est vrai que quand on joue au poste intérieur, on se retrouve face à à des adversaires qui font souvent plus de 2 mètres et qui approchent le quintal. Ouais. Donc,
loin du gabarit de Laurent. 2 mètres, mais circonférence. Hein. Il était énorme.
Donc, c'est vrai qu'il faut jouer des coups.
Ouais. Ouais, mais il a été bon en défense et en attaque, on joue pas assez sur lui. Mais bon, ça, c'est mon avis. J'en ai parlé un peu à la coach. Elle n'est pas tout à fait d'accord. Mais bon, c'est un débat qu'on aura une autre fois. Prochain match, Aurélien, tu l'as en tête ou pas?
Prochain match, c'est ce samedi soir. C'est un déplacement à Vergès.
Ok.
Voilà, qui eux aussi sont dans le haut du tableau. Donc ça risque d'être encore.
J'ai l'impression qu'il n'y a que des équipes dans le haut du tableau.
Ouais, il n'y a que des équipes en bas.
Qu'est-ce qui dernier, remarque.
Mais c'est ça,
il y a beaucoup d'adversaires au-dessus de toi.
C'est un championnat où il y a 4 ou 5 équipes qui sont premières ex aequo avec 5 victoires et une défaite. Ouais. Donc elles se jouent un petit peu le. Elle joue la montée. Et donc, nous, de notre côté, c'est un petit peu un championnat parallèle, on va dire.
À 2 équipes contre Mons.
Voilà.
Mais on va les gagner, Mons.
C'est ça.
Tout le monde le 12 janvier. Non, le 12 décembre. 12 décembre ou le 19 janvier.
Ou fin janvier.
Fin janvier plutôt, alors. Ouais. On va essayer de repousser.
Ouais. Je vous tiendrai au courant pour amener le plus possible de supporters. Alors,
prévoyez des chaises, s'il vous plaît, cette fois-ci, parce que là, 6 chaises, c'était pas assez là, pour le public.
Ouais,
nous on était 7.
On était debout, on était 8, on s'est retrouvés debout avec Laurent. On arrivait, on dit « Ah, c'est plein !»
C'est un message que tu peux envoyer à la mairie, oui, effectivement.
Ouais.
Ou au responsable de salle qui faisait pas grand-chose. Hein,
ouais,
on lui a parlé.
Si nous écoute, ouais.
Salut Eric. Allez, en volleyball, belle victoire du MVL à Arles, 3-7-2. Au classement, Mende, solide leader, 21 points. Toactuk à 17, Arles 16, Alès 11, puis Gouzon 10, etc. Est-ce que tu as eu des échos de ce match, Patrick?
Oui, j'ai eu des échos avec un début de match de la part des Lozériens totalement cataclysmal, catastrophique. Beaucoup de stress, beaucoup de tension. Alors c'était un peu même surprenant parce que c'était le premier match retour, donc on a vu sur la première phase quand même le MVL a fait une superbe première phase, donc il n'y avait pas de raison d'être plus tendu que ça. Et bien au final il y a eu 2 premiers sets perdus nettement et assez logiquement avec une réception par exemple on sait. Il y a un joueur qui a été champion d'Algérie l'année dernière et qui a signé cette année à Mende, qui est en principe en réception vraiment très stable. Et là, de façon assez incompréhensible, il a fait ce qu'on appelle dans le jargon des zips, c'est-à-dire les ballons qui partent de partout, dans les tribunes, derrière toi, et bon, alors qu'il faudrait qu'ils passent vers ton passeur. Et même le passeur qui joue en Ligue B l'année dernière et qui est vraiment une super recrue, alors lui ça se comprenait peut-être un peu plus parce qu'en fait il est originaire d'Arles. Et donc il revenait jouer quasiment pour la première fois là où il a été formé, où il connaît tout le monde. Et donc il est passé lui aussi au début de match complètement à travers. Et même Constant a été obligé de faire rentrer le passeur remplaçant qui est Loïc Bacam, qui lui aussi a joué de nombreuses années à Arles avant de signer à Mende. Donc voilà pour dire qu'il y a eu un début de match vraiment surprenant. Après ils se sont calmés, Constant a fait les changements qu'il fallait. Bon, une nouvelle tactique, des joueurs aussi, l'entrée d'Anthony Volley qui a été très 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 bonne. Et donc ils ont gagné les 3-7 suivants, en particulier avec un contre vraiment optimal, en particulier Favre qui a futé comme jamais. On l'avait je crois que je sais pas si on l'avait reçu, enfin à voir, à vérifier,
non,
je crois pas.
Non.
Et voilà, il était déjà là l'année dernière et bon, il fait un super début de saison et donc au contre, il a été vraiment phénoménal, en particulier dans le tie-break. Et bon, il faut dire que Arles, il y a une ambiance de feu, il paraît, dans ce petit gymnase, bon, que je connais bien, il y a le stade de foot qui est juste à côté aussi.
C'est vers chez toi,
et
ça.
Et voilà, et donc c'est un gymnase vieux, vraiment, qui ressemble pas à grand chose, et qui a peut-être 40 ou au moins une quarantaine d'années, facilement. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit chaudron, et il y a du public pour voir le volleyball à Arles, et donc ça met une ambiance de suite, et c'est vrai, une pression sur l'équipe adverse. Alors c'est bon enfant, mais ça crie, ça chante, ça déconcentre, et donc ça a pu surprendre aussi les Mandois d'entrée de match.
Laurent, tu veux intervenir?
Combien il y a eu au cinquième set?
Il y a eu 15, 10, 11, 12, enfin, bon, ouais, au début, il y a une marge. Au début, Mende a fait un écart d'entrée. Bon, alors, elle est revenue, puis après, ça a déroulé. Non, il n'y a pas eu trop de stress au niveau du tie-break. Alors là aussi, pour l'anecdote, bon, on n'y était pas, donc c'est compliqué un peu de dire, mais il paraît qu'il y a eu aussi un arbitrage un peu vraiment...
Maison.
Franchement, bon, en plus, la personne qui me l'a dit, on ne peut pas dire vraiment que c'est quelqu'un qui hurle souvent sur l'arbitrage. Et, bon, d'après ce que j'ai compris, c'était bon, une arbitre vraiment inexpérimentée qui faisait quasiment son premier match à ce niveau de National 2. Et donc, qui s'est vraiment laissé influencer par justement le public. Et puis, c'était sur certains points, c'était vraiment le joueur qui disait, qui gueulait le plus. Oh, c'est fort, tout ça, tout. Bon, l'arbitre, un coup, oui, de tel sens, tel autre sens. Et donc, c'est vrai que ça perturbait quand même pas mal le match. Et bon, ça s'est équilibré au final, mais bon, il y a quand même eu un peu, surtout en début de match, un arbitrage un peu à la maison quand même.
On va revenir sur ça parce qu'on a vécu un peu ça avec Laurent au hand féminin. On en parlera tout à l'heure. Aurélien.
Donc d'après l'ambiance que tu décris et les circonstances de match, donc cette équipe de Mende apparemment a quand même une force de caractère pour venir emporter le match. Si elle débute mal, s'il y a des joueurs qui sont un petit peu à côté de la plaque, ça démontre quand même, je pense, une force de caractère pour aller s'imposer à l'extérieur dans un tel contexte.
Une profondeur de banc de l'effectif, les changements ont vraiment apporté. Et comme tu le dis, sans ce mental, j'ai parlé bien sûr au président Velay que j'ai eu ce matin, il m'a dit ça peut faire 3-0 pour Arles. Si on n'a pas la capacité de réaction, si on a une équipe un peu moyenne, on pouvait faire 3-0 pour Arles. Et donc là, c'est pas pareil parce que, Laurent, tu le sais maintenant, le règlement, il faut garder les points et tout ça, mais je te laisse expliquer parce que maintenant, tu es au top niveau.
Moi, j'aimerais intervenir pour revenir, on peut le voir dans l'autre sens aussi, hein, niveau mental, parce que si on se laisse avoir parce qu'il y a du public, etc., mental, il n'y est pas non plus.
C'est un peu ce qui s'était passé à Puy-Gouzon, on avait dit qu'il y avait un public qui était très proche du terrain, qui leur mettait la pression.
C'était à peu près la même
ambiance, leur pointure de chaussures et compagnie.
C'est vrai.
Et donc du coup c'est bien que cette fois-ci ils aient réagi et gagné, bravo.
Et alors tu parles de Puy-Gouzon, c'est bien parce que la seule défaite c'est contre Puy-Gouzon
qui donc, est cinquième, donc
voilà, donc c'est bon parce que les points contre
Puy-Gouzon
il faut que Puy-Gouzon reste cinquième,
reste cinquième. Et ce qui est bien pour ce week-end c'est que Arles est troisième. Arles faut qu'il reste dans les quatre premiers du coup puisque on garde les points pour les play-offs, on garde les points acquis et donc pour l'instant Mende a un sans faute contre les quatre premiers, donc
parce
le maximum de points pour la phase retour.
Contre Arles, tu as marqué 5 points sur 6, tu as marqué que 2 points puisque tu as gagné que 3-2, mais quand même contre Arles, tu as marqué 5 points sur 6,
la défaite depuis Puy-Gouzon n'aura aucune incidence
pour l'instant.
Pour l'instant,
si ça s'arrête, ça s'arrêtait à ce moment-là.
Si Puy-Gouzon reste 5e.
Exactement. Laurent, tu as les résultats de la pré-nationale ou des filles?
Oui, alors en pré-national, c'est moins rigolo. Par contre, les garçons perdent contre l'Arago de 7, 3-7-0 et restent avant-dernier du classement. Donc là, c'est pas terrible. C'est une équipe jeune, j'imagine, qui se construit. Donc du coup, on leur laisse le bénéfice du doute, évidemment. Par contre, les filles, alors elles continuent leur sans faute. Bravo à Amal Baïch et toutes ses filles. 5 matchs, 5 victoires. Encore un 3-7-0 contre le 7 volleyball. Qui était certes mal classé, mais bon, il faut le faire quand même. Donc, Mende est première, les filles de Mende sont premières avec 13 points. Derrière, c'est Latte PTT Montpellier qui a 10 points, donc 3 points d'avance. C'est bien, ça semble bon pour l'équipe des filles.
Ouais, bravo, parce qu'elles font vraiment un beau championnat. Après, c'est toujours le même système de play-off. Amal nous l'a dit quand on l'a reçu il y a quelques semaines avec des grosses équipes dans les autres poules, donc c'est là que ça se jouera, mais en attendant. Ça marche bien.
Patrick, est-ce que tu as le résultat de Monaco?
Alors, d'après ce que je sais, je pense qu'ils ont perdu leur premier match de la saison. Donc 3-2. Donc ils ont quand même marqué un point. Donc je pense qu'ils vont se qualifier dans les 4. Il n'y a pas de problème. Tu peux
commencer à réserver un hôtel.
Mais on ne connaît pas encore la date, bien sûr, puisque le calendrier n'est pas fixé. Mais bon, je pense que tu peux cocher ce déplacement à Monaco.
Pour nos auditeurs et auditrices, et puis surtout moi pour ma famille, pour Vivien qui est là. Donc nous, on risque d'aller à Monaco pour la phase retour, les playoffs, parce que Monaco risque d'être
les playoffs, la deuxième phase.
Et donc il faut bien sûr du public pour aller encourager le Mende Volleyball. Et nous y serons.
Il faudra réussir à sortir du casino à temps. C'est juste ça le problème. Handball, victoire de l'équipe Fagnon du MGC à Prades-le-Lez, 26-21. Victoire également de la réserve garçon à Lunel, 31-20. Donc deux belles victoires à l'extérieur. Alors, ce que j'ai entendu dire, l'équipe une belle victoire, rien à dire. Et du coup, l'équipe reste accrochée à la troisième place. Alors,
encore 10 buts de Fabien Marty.
Encore 10 buts de Fabien Marty qui
cartonne. Exceptionnel, début de saison magnifique de Stélie.
Impressionnant.
Impressionnant, Stélie.
Alors, le match le plus important de ce week-end, quand même, c'est le premier qui recevait le second. C'était Agde contre Nîmes. Et Nîmes l'a emporté 32-29.
Premier ex aequo, puisqu'ils étaient invaincus les deux.
Et le premier ex-aequo, oui, exactement.
Ouais. Donc Nîmes gagne, c'était à
c'était à domicile.
Ah, c'était à Nîmes.
Ouais. Contre Agde de coup, 3 buts. Donc
je
du coup,
que Nîmes, ils étaient nuls. Finalement, ils ne sont pas si nuls que ça. Quoi.
Mais Nîmes est premier à 18 points. Mmh. Agde et Mende, second avec 16 points. Donc du coup, Mende est second ex-aequo à 2 points du leader. Donc ça, c'est la belle opération du week-end, voilà, de gagner et en même temps de se rapprocher vu que les deux premiers jouaient ensemble.
Agde, donc, Agde est devant parce que tu as perdu contre Agde.
Maintenant, on va battre Nîmes et Mende sera premier du coup.
Mais c'est pour ça que c'est excellent que Nîmes ait battu Agde, puisque mmh, étant donné que Mende a perdu contre Agde, bon, si Agde avait gagné, ça aurait été compliqué. Aurait été un, en plus, un gros écart contre Mende, plus de 10 buts d'écart,
15 points d'écart.
Ou 15 points d'écart, voilà. Donc, bon, c'est bien parce qu'il peut y avoir maintenant une égalité à 3 équipes, et donc là, c'est plus pareil. Mmh.
C'est parfait.
Voilà, Mende qui poursuit son petit chemin, ça va être compliqué quand même, c'est dur
là, ce championnat. Le match n'a pas été, le match a pas été simple, puisque l'équipe de Prades est revenue quasiment à un ou deux buts, à 10 minutes ou un quart d'heure de la fin, ouais. Donc il a vraiment fallu cravacher pour que Mende s'impose. Ça a été un des matchs les plus compliqués depuis le début de la saison.
Mais Prades, c'est une équipe réserve aussi. Donc ouais, peut-être qu'il y avait des joueurs renforcés, Ludovic, qui a des attaches à Prades. Moi, pourrait peut-être nous en parler.
Ouais, non, il n'y avait pas de joueurs de la Une qui sont descendus.
Tu pourrais faire croire.
Non, mais bon, il n'y a rien à dire sur le match. Bon, Mende n'était pas son niveau habituel, mais il y a quand même 5 buts d'écart, donc il n'y a rien à dire.
C'est un gros match du gardien aussi, du gardien Mendois, qui vient de re-signer.
Oui, Sébastien Frey, voilà, qui fait des merveilles dans les buts.
Que Prades voulait faire signer d'ailleurs, voilà, en aparté.
Et donc, il manquait aussi le petit ailier virevoltant, le petit Bocanegro Kevin. Voilà, je cherchais son prénom. Donc du coup, c'est vrai que ça a chamboulé un petit peu l'équipe, mais bon, pas d'incidence. Pascal Daudet a encore ramené une victoire. On le salue, puisque je sais qu'il nous écoute.
Voilà, ça va être serré, mais on les suit, ça peut le faire. Du coup, nous, avec Laurent, à la mi-temps du hand, à la mi-temps du basket, à moins 27 ou moins 28, je sais pas, on s'est dit, allez, on va aller voir les filles qui jouent au hand. C'était compliqué aussi, Laurent, contre Bouillargue.
Contre Bouillargue, qui joue le haut de tableau aussi, ouais. Avec des anciennes joueuses qui ont joué à un très bon niveau. Et donc, du coup,
une ancienne professionnelle qui était goal avant et là qui joue ailière gauche à Bouillard.
Non, arrière-gauche.
Arrière-gauche, pardon.
Et qui a encore du peps malgré qu'elle ait du kilométrage. Et donc, les Mendoises menaient au score
début du match. Ça ne nous regarde pas.
C'est classe comme expression.
Mais elles ne écoutent pas alors. Et donc du coup, les Mendoises qui avaient bien attaqué puisqu'elles menaient 3-0 d'entrée, puis finalement après, bon, ça s'est un peu gâté. Et donc vas-y, toi qui étais au match, tu peux nous en parler un peu plus aussi.
Ouais, non, rien à dire, mais les Mendoises étaient un peu en dedans, j'ai trouvé, oui, par rapport à leur habitude. Bouillargue a joué son jeu et les Mendoises n'ont peut-être pas joué, elles ont loupé beaucoup de tirs faciles, ouais, voilà. En tout cas, Bouillargue, c'est une équipe que les Mendoises aiment bien parce qu'elles ont l'habitude de se retrouver à l'aller et au retour pour faire la fête ensemble, donc bonne ambiance. Du coup, j'ai un petit coup de gueule à passer parce qu'on pointe souvent du doigt les supporters de foot, voilà, sur le bord du terrain. Et il se trouve qu'à ce match, un des premiers que je viens de voir de l'équipe féminine, il y avait des parents de ces joueuses, voilà, des mères de famille qui ont passé tout leur match à crier sur l'arbitre, pauvre arbitre féminine qui a 18 ans, qui vient en week-end pour arbitrer. Et voilà, je trouvais ça moyen. Voilà, donc je tenais à le dire parce que c'est pas
très
sympa.
Tu as raison de le dire, tu as raison.
Voilà, c'est pas très sympa.
Quand tu vois des trucs comme ça, il faut le dire, c'est vrai.
Un peu de retenue, en plus c'était une bonne ambiance et au final elles ont, enfin, c'est supportrice.
Ça a mis un petit peu le feu à l'arbitre qui à la fin a joué des 2 minutes pour tout le monde. Tout le monde a chopé son 2 minutes, je crois.
Voilà, Bouillargue a fini à 3 contre Mende qui était 4,5 alors que le score était déjà fini parce qu'il y avait moins 7 pour les Mendoises, elles pouvaient pas revenir. Donc voilà, c'était pour le dire parce que c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt les supporters de foot. Il y a des fois des parents.
Bon, en même temps, il n'y avait pas beaucoup qui gueulaient. Hein. Il faut pas généraliser, ouais, sur le public de Mende. C'était pas tout le public mendois. Je tiens à préciser, Ludo qui va peut-être un petit peu fort, mais. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde qui gueulait, mais on l'entendait bien.
Très bien.
Voilà, du coup, vous auriez dû rester au basket.
Mais du coup, on est revenu, on s'est dit, ouais, peut-être que Mende remonte au basket, mais non.
Voilà. Ah, mais en fait, c'est ça. En fait, au basket, il faut savoir que l'équipe de Mende a gagné le 3e carton. Donc c'est le seul carton où vous n'étiez pas là. Donc
oui,
vous êtes un petit peu les chats noirs peut-être.
Ne venez plus. Ne venez plus.
Et à Mende, il y avait une personne au basket qui criait, c'était Laurent, sur l'arbitre.
Hein, non, une fois, parce que bon, il y a eu une faute quand même assez flagrante qu'il n'a pas vue, et j'étais très bien placé, donc je lui ai signifié.
Ouais, il y a une prise de judo, c'était pas terrible.
Du coup, j'ai pris j'ai pris une technique.
Il a pris une technique.
Donc c'est pour ça que tu es parti au Wall.
Allez, on passe au foot. PHB, Gare Lozère, Badarou obtient le match nul à Poulx, un but partout et reste en tête du championnat avec 21 points. Devant Canabier, Galargue, Le Vigan, Vauvert, Beaucaire, etc. Vite fait sur Badarou, bonne ou mauvaise opération? Parce que Poulx, c'est septième.
Oui, ça dépend de ce que tu vises maintenant. Bon, Badarou a été promu, donc c'est sûr que quand tu es promu en PHB, tu te dis ben on va viser le maintien. Mais bon, finalement, tu fais un début de saison tonitruant et tu te retrouves en première place. Donc après, si tu revois tes ambitions en te disant il faut qu'on reste à la lutte pour les deux premiers, trois premiers, ben, tu peux dire oui, c'est une demi-contre-performance, une demi-performance de faire un match nul contre Poulx, tu as dit qu'il était dans le milieu de tableau, mais plutôt vers la fin. Non, il faut pas trop demander à Badarou, c'est déjà fabuleux ce qu'ils font. Et donc, gros début de saison, bon, il fait un à l'extérieur, rien à dire. Quoi.
Voilà, match nul à l'extérieur, c'est bien. Quand même.
Exactement.
Ok, honneur régional à domicile. Marvejol fait match nul contre Nîmes, Soleil Levant, deux buts partout, un nouveau doublé de Diallo, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
C'est ça.
C'est ballot parce que Marvejol, qui menait 2-0, s'est fait rattraper en deuxième mi-temps. Ouais.
Marvejol qui a joué en Coupe Gare Lozère ou Coupe Lozère
mercredi.
Mercredi, donc il semble un peu fatigué de ce match.
Ils ont éliminé Saint-Privat 2-1.
Pour leur troisième match de la saison contre Saint-Privat.
Ouais, c'était contre Saint-Privat, ouais. leur victime favorite.
Ouais. Donc du coup, Marvejol est sixième avec 17 points, sachant que la réserve de 7 est premier avec 27 points. Ils ont des matchs en retard peut-être aussi.
Oui, Marvejol a été exempt une fois, parce que c'est une poule où il y a 13 clubs. Donc Marvejol a été exempt, puis il y a aussi un match, je crois qu'ils ont un match en retard par rapport à... fait un rattrapé, donc bon, c'est vrai que le championnat, le classement est difficile à lire dans cette division. Alors là aussi, Marvejol est un promu, donc bon, tu te dis vraiment tu joues le maintien, et puis au final, ben tu te piques au jeu parce que Marvejol fait un énorme début de saison, et donc là tu te dis ben tu as perdu 2 points parce que Nîmes, Soleil Levant, ben ils étaient avant dernier, et donc tu joues à domicile, donc tu demandes beaucoup à Marvejol et tu te dis bon, en plus tu mènes 2-0, tu te fais rattraper. Mais bon, là aussi, ne demandons pas trop à Marvejol. Je crois qu'ils sont vraiment très heureux du début de saison qu'ils font. Bon, voilà, toujours qualifié en Coupe Gare Lozère. En Coupe Lozère, ben, d'ailleurs, il va y avoir un match Badarou-Marvejol ce vendredi soir, qui s'annonce explosif. Donc, voilà, rien à dire sur Marvejol. Vraiment un super début de saison. Et puis ce Diallo, jusqu'où va-t-il aller?
Ça
en fait un paquet de buts. Là, en PHA, l'année dernière, il a été monumental. Bon, là, c'est quand même le niveau au-dessus. Il est encore une fois monumental. Il marque contre toutes les équipes, à chaque match. Chapeau à lui. Bon, je pense que vraiment, les recruteurs vont se mettre dessus. Hein.
Il est nommé pour le soulier d'or, l'Auxerrien.
Ouais, non mais il faudrait refaire.
Il y a 30 buts derrière lui.
Non, mais il y a juste contre Nord-Lozère qu'il n'a pas marqué en Coupe Lozère l'année dernière. Quoi, ouais.
Voilà.
Fallait le signaler quand même.
C'est ça.
C'est ça. En parlant de coupe, la réserve de l'AFL s'est qualifiée aussi 2-0, je crois, il me semble.
Oui, à Montroda.
À Montroda. L'équipe 1 de l'AFL, après son bon match en retard contre la Grande Motte, il y a un peu plus d'une semaine, et sa victoire à l'extérieur, en division d'honneur, l'AFL tombe à Perpignan, 3-1. But sur pénalty de Nabil Zanina, c'est ça, Laurent?
Exact.
Dans les autres matchs, Bagnols-Pont perd à domicile contre Perpignan, Canet 3-0, Saint-Clément contre Latte 1-0. Donc on limite encore les dégâts au classement. On a l'impression que chaque faux pas, bah, on a un peu de chance parce que les autres en font aussi. Mende est premier avec 22 points et un match de moins. Bagnols-Pont, 21 points. Saint-Clément-Montferrier, 20 points. Perpignan, 2 matchs de moins et 19 points. Donc qui peut remonter devant Mende s'il gagne ces deux matchs. Latte, 19 points, un match de moins.
Donc qui peuvent revenir ex aequo.
Voilà, qui peuvent revenir ex aequo. 19, 20, 21, 22, 23. Non, ils peuvent passer
devant. Ils
passent devant.
Ils passent devant.
S'ils gagnent en match retard, ils passent devant, je crois.
4 points.
À peu près, 6 midi libre.
Ah, mais pour un point, oui, bon, c'est pareil.
Oui, ben, non, c'est pas
un
pareil.
Point, l'année dernière,
si on gagne notre match en retard, si eux gagnent leurs deux matchs en retard, ça fait beaucoup de si, mais
ça fait la différence.
Patrick, c'est étrange hein, ce championnat cette année pour la FL.
C'est un championnat complètement hallucinant. Moi, je pense que c'est du jamais vu depuis peut-être une dizaine d'années, avec autant d'équipes aussi serrées. N'importe qui peut battre n'importe qui. On le voit, Bagnols qui prend 3-0 contre Canet. Et bon, Perpignan-Bavernier qui gagne à l'extérieur alors qu'ils avaient gagné contre contre Mende aussi à l'extérieur leur seul match. Bon, etc., etc., etc. Et bon, pour revenir sur Mende, tu prends un but au bout de, on m'a dit quoi, 14 secondes, Laurent. Donc,
oui, c'est, je pense c'est dans les annales. Dans la presse,
c'est dans les annales du football. Donc, c'est compliqué. Tu joues le match au sommet. Tu sais déjà que Perpignan aussi, ça va être une des équipes qui va jouer la montée avec toi. Donc, tu es prévenu. Tu prends ce but d'entrée, donc c'est, ça devient compliqué. Et puis finalement, tu as fait deux défaites, deux fois contre les clubs de Perpignan. Donc peut-être que ces clubs de Perpignan sont... C'est un peu la bête noire.
On prend un but d'entrée, comme tu dis, mais au courage, l'équipe revient pour être encore à un partout à la mi-temps. Donc bon, c'était pas encore perdu. C'était
non, c'est vrai.
Après, c'est un pénalty... Un pénalty qui fait basculer le match, mais bon, je crois qu'il n'y a rien à dire sur ce pénalty, on ne va pas critiquer.
Ouais, en plus, bon, tu as eu toi un pénalty en première mi-temps, donc les arbitres, tu sais bien comment ça marche, hein. Tu sais, un pénalty d'un côté, donc c'est compliqué après. Bon, s'il y a une autre faute dans la surface adverse, bon, mais tu compenses, tu fais, voilà, tu équilibres, et donc ça fait un pénalty de chaque côté. Bon, c'est vrai que c'est, tu peux dire que c'est dommage, mais le championnat va être trop long. Voilà, on n'a pas fini d'avoir des rebondissements. D'ailleurs, il y a un match que tu n'as pas cité, mais c'est Aigues-Mortes contre la Grande Motte. Donc Aigues-Mortes, une équipe qui va être aussi à la lutte pour la montée. Donc il y avait 2-2, 90e. L'arbitre aussi fait un penalty pour Aigues-Mortes. Et ben le joueur n'a pas été en mesure de siffler le penalty tellement il y a eu de débordements, et donc l'arbitre a arrêté le match avant que le joueur puisse tirer le penalty. Ah. Donc 90e minute, 2-2. Et voilà, donc
match
ça va
arrêté.
Se jouer. Voilà, match arrêté. Ça va se jouer en commission de discipline.
Match arrêté ou est-ce match qu'il arrêté. A sifflé la fin du match?
Ah non, match arrêté. Le joueur n'a pas pu. Il y avait tellement d'insécurité que l'arbitre a dit que le joueur n'était pas en mesure de pouvoir tirer le penalty, donc il a arrêté le match.
Alors attends, c'était quel joueur qui n'a pas, quelle équipe n'a pas pu tirer son penalty?
Aigues-Mortes.
Aigues-Mortes n'a pas pu tirer son penalty.
C'était à la Grande Motte.
Voilà. Non, c'était à Aigues-Mortes.
Ah ouais.
Voilà, donc il y a eu vraiment des incidents sérieux.
Ouais. C'est le derby Aigues-Mortes, la Grande Motte.
C'est ça.
Et du coup, c'est un match qui va être à rejouer ou
Ça après, c'est la commission
la pivère,
qui.
Je pense,
c'est la commission qui juge, mais comme le dit Ludo, en foot, il y a très peu de matchs à rejouer, et donc on se dirige plutôt vers match perdu. Alors pour qui? Pour les deux équipes que
non,
pour une équipe
Évidemment la Grande Motte, puisque ils n'ont pas pu tirer. Enfin,
mais non.
Ouais, mais s'il y a eu bagarre entre les équipes, la Ligue peut dire que c'est la responsabilité de l'arrêt du match incombe aux deux équipes, et donc il peut y avoir un match perdu aux deux équipes.
Ça nous arrange, ça, match perdu aux deux équipes.
Ça serait le scénario idéal.
Je pense qu'Aigues-Mortes voulait quand même tirer leur penalty. C'est eux qui ont mis la zizanie.
Ouais, d'accord, mais si l'arbitre dit il y a bagarre générale, bon, la sécurité. Était plus, voilà. Après, ça dépend des rapports des arbitres.
Ouais, voilà, c'est ça, le rapport de l'arbitre.
Exactement.
C'est ça, ouais.
Exactement.
On va suivre avec attention, là. Ça m'intéresse, cette histoire. Hein, on donnera.
On ne sait pas si le public aussi, une partie du public est rentrée sur le terrain.
En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une défaite pour les deux équipes et 5 points de retrait pour les deux équipes.
Non, mais une défaite aux deux équipes avec 0 points, ça serait.
Et que des 8 cloches jusqu'à la fin de la saison.
Ouais. Et il y a eu un joueur d'Aigues-Mortes qui a été gravement blessé et qui risque d'avoir la saison terminée. Donc, ça a été vraiment un match très, très chaud.
C'est sur le pénalty, d'ailleurs.
Je crois pas. Je crois que c'était pas avant.
Non.
Non,
dans le journal, c'est marqué comme ça.
Non, mais le journal, ils disent n'importe quoi.
Ah oui,
ils disent que t'as perdu 4-1.
Il faut écouter l'Instant Sport pour avoir les vrais résultats.
Ouais. Voilà, exactement. Toi, tu pourrais te renseigner. T'as des amis par là-bas, hein, je crois, Aurélien, la Grande Motte, tout ça. Tu pourrais en savoir plus.
Ouais. Non, mais je crois qu'il y a eu des joueurs qui ont vraiment, à l'intersaison, qui ont été transférés de la Grande Motte et qui jouent maintenant à Aigues-Mortes. Et donc, je pense que là aussi, il y a vraiment des rancœurs entre dirigeants avec cette intersaison qui a été marquée justement par pas mal d'échanges entre les deux clubs.
D'accord. Le NL fait des échanges avec d'autres équipes? Il y a des rancœurs?
Un petit peu avec l'équipe de Saint-Flour. C'est vrai qu'il y a eu un peu des échanges.
Ah oui, c'est le derby là aussi.
Oui.
Ouais, un peu.
Le derby à Fête des 15.
Entre le NL et l'AFL, il y a quand même eu un joueur qui a fait 5 ou 6 allers-retours.
On peut en parler. Il est retraité.
D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote entre toi et lui
tu
m'as raconté.
Ah, mais tu peux le dire, parce que j'ai jamais osé le dire, mais bon.
Ah oui,
mais je le dirai.
C'est intéressant.
Alors, oui, on n'a pas cité son nom, c'est Guillaume Julien, évidemment, qui est né à son 5e aller-retour entre le Nord-Lozère et.
Mais là, il s'est arrêté dans les allers-retours.
Et là, il n'a pas fait le retour.
On ne sait pas encore, la saison n'est pas terminée.
Alors, c'est quoi l'anecdote?
Non, c'est rien.
L'anecdote, c'était. On peut la raconter?
Oui, ben oui.
C'était que donc Laurent Julien, il jouait en DHR au Val d'Aunès, c'est ça?
Voilà, avec Guillaume.
Avec Guillaume Julien.
J'ai tout appris.
Et alors, sur le, il porte le même nom. Et donc, sur le journal, c'est vrai que nom du buteur, souvent, on voyait voilà. Julien, Julien. Ouais.
Sauf que Guillaume.
Donc, nous, la tante Nord-Lozère, on a contacté Guillaume, Julien. Ouais. Et quelques années après, Laurent Julien m'a dit qu'en fait, c'était lui qui marquait voilà. tous les buts.
Non, mais Guillaume.
Bon, avait... après, quand j'ai vu les deux joueurs, je me suis dit qu'on s'était pas trompé. Non, mais...
alors, finalement, vous avez pris le meilleur.
Ouais, je pense, ouais.
Oh, à vous la êtes mi-saison, pas sympa. Guillaume avait mis 2 buts. Je le salue, Guillaume, d'ailleurs.
Il nous écoute.
Et moi, j'en avais mis 8. Sauf que sur le journal, du coup, Julien en a mis 10 en tout, quoi. Et Guillaume, enfin, bon, ils ont pris une spatule. Oui, mais ils s'en sont rendu compte parce qu'au bout de 3 matchs, ils ont dit, putain, il a les pieds carrés, c'est quoi ce type? On s'est fait rouster, quoi. Et sauf que Julien continuait à marquer au Valdonès. Et là, ils ont dit, attends, il y a un problème.
Ouais, il leur coûte
mais après, il s'est bien repris.
Il leur coûte moins cher en alcool aussi, hein, que si t'avais pris, non, toi. Non, oh là là.
Charcuterie aussi, moins cher.
Charcuterie, t'es la galère. Allez, on parle de l'ANL, justement. L'entente Nord-Lozère contre Tritrac. C'était Itrac qui a été annulé. Début de galère avec l'arrivée de l'hiver en attendant que, on l'a dit, ce stade soit homologué. En attendant, eh bien, on n'y voit un peu rien sur votre classement parce que du coup, tout le monde a des matchs en moins. On ne sait pas où vous êtes. Vous êtes 9e et vous avez 2 matchs en moins et vous n'êtes qu'à 7 points du premier. Donc, à 4 points la victoire, vous pouvez être premier si vous voulez gagner. C'est compliqué. Patrick, on a parlé de cette équipe de l'ENL qui nous a surpris sur ce début de championnat.
C'est vrai. Bon, l'ENL était dans cette division. Il y a eu cette descente en DHR. Et donc, bon, on ne sait jamais comment les clubs vont rebondir suite à une descente. Ça peut être ben, justement la descente aux enfers avec voilà, une nouvelle descente au niveau PH, ou alors ben, tu essayes de rebondir, et c'est ce que l'ENL a réussi à faire. Ils ont magnifiquement rebondi puisqu'ils ont réussi à remonter en DH. Donc eux aussi, c'est un promu cette année, et donc c'est vrai qu'on est agréablement surpris par ce début de saison, surtout dans ce championnat qui, comme celui de l'AFL en DH, donc là, Languedoc-Roussillon, est hyper serré, puisqu'on a l'impression que toutes les équipes peuvent se battre, et il y a très peu d'écart entre le milieu de tableau, le haut de tableau ou le bas de tableau. Donc, bon, félicitations à l'ENL qui a su repartir sur une dynamique et sur un beau projet, et donc qui, à mon avis, peut faire une super saison et viser, pourquoi pas, les 5 premiers. Et après, une fois que tu es dans les 5 premiers, ben, tout est possible.
Hein. Vivien, comment tu sens ce championnat cette année?
Oui, mais comme il a dit, c'est vrai que c'est très serré. On voit bien que toutes les équipes peuvent se battre. Maintenant, nous, c'est vrai qu'on arrive de division d'honneur régionale avec un effectif très très serré. Ce début de saison, on a eu quand même beaucoup de circonstances avantageuses pour quand même pour nous, quoi. Donc, avant tout, c'est le maintien. Bon, j'ai entendu dans des précédentes émissions qu'on pouvait pourquoi pas accéder au CFA2. On en est quand même
bien
très
sûr.
Loin. Non, on en est très loin. Je vais pas faire mon guirou, mais,
il est modeste.
Non. On joue le maintien et c'est vrai qu'on est plutôt content de ce début de saison. On sait souvent que on surfe un peu sur la saison passée. Voilà, c'est ce qui nous a permis de prendre des points de début de saison. On n'était pas forcément attendu, donc je pense des équipes étaient venues un peu chez nous, la fleur au fusil et voilà. Mais bon. Je vois que monsieur.
Tu parles de surf, ça me plaît parce que je sais que t'es un très bon surfeur en plus.
Ouais.
Et bon, ça, c'est une anecdote. Je peux vous montrer des photos aussi d'ailleurs, mais enfin, bref. Juste, tu parlais d'effectifs tout à l'heure. On a annoncé il y a 15 jours le retour de Régis Dossou avec BT. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est pas reparti? Non?
Si, si, il est là. Ah. Il est arrivé. Ça fait 10 jours. Donc, la semaine dernière, on a joué en Coupe du Cantal. Il a fait 20 bonnes minutes, parce que c'est vrai que la différence entre là, le Bénin et
Saint-Chély,
ouais, facilement. Donc, il a fait 20 bonnes minutes, et puis voilà, ça y est, il est de nouveau avec nous. Ça fait 10 jours, donc il s'entraîne et.
C'est compliqué.
Laissons-lui le temps de revenir tranquillement. Alors, n'attendons pas trop aussi de lui non plus.
Ouais, du coup, tu perds ta place de numéro 10, du coup, dans l'équipe.
Je sais pas, faut voir avec le coach.
Il va redevenir libéro.
Ouais, mais il marquera plus. C'était le seul à
non, mais
buts,
je joue souvent libéro. En fait, on a deux défenseurs centraux qui sont un tempérament assez dur. Donc, il suffit qu'il y en ait des deux qui soient suspendus ou blessés. Ah. Et du coup, je passe derrière. Enfin, voilà. Bon, peu importe. L'important, c'est l'équipe.
Oui.
Voilà.
Oui.
Au niveau de l'effectif, par rapport à l'an dernier, on a parlé de ce retour, sinon ça a peu bougé?
Ça a un peu bougé, ouais. On a eu quand même la perte, donc de l'arrêt, de, comme on a dit tout à l'heure, de Guillaume Julien. On a eu l'arrêt aussi de Corentin Bonnefoy, qui était plutôt un joueur offensif, qui est parti faire des études sur Montpellier. C'est vrai qu'on montait, pour monter en DH, il a fallu se renforcer, donc on a eu la venue de deux joueurs, un défenseur central, Boubacar Faye, un très bon joueur qui vient de 10 heures, et un attaquant, Francisco Mendes, qui vient de la région de vers Rouen, par là-bas, un club de DH. Pareil, un bon joueur, donc il faut au moins ça pour rivaliser dans cette division DH, quoi.
Beaucoup d'équipes réserves dans votre division, hein.
Oui. C'est vrai qu'il y a
c'est compliqué à jouer, du coup, les réserves.
C'est compliqué, oui, c'est compliqué, surtout quand on joue le dimanche et que leur équipe 1 a joué le samedi, ouais, qu'ils n'ont pas fait rentrer certains joueurs, donc du coup, ils peuvent les aligner en équipe réserve le lendemain.
Ça fausse le championnat,
cela
ça,
dit, ce sont des réserves qui ne peuvent pas monter un CFA2.
Oui.
Oui, mais c'est pas grave, ça te fausse le championnat.
Ça dépend lesquels, parce que bon.
Ça dépend
non, je crois que maintenant, plus aucune ne peut
monter. Aucune,
ouais, ouais.
Aucune, puisque les autres sont un CFA. CFA.
Et donc maintenant, on ne peut plus faire, je crois, CFA et CFA2. Non, donc, il y a encore 3 ans de ça, c'était le cas, parce que Moulin était en CFA et CFA2, mais actuellement, ouais, c'est vrai qu'on a 5 réserves, je crois, mais aucune ne peut monter, quoi.
Les points forts de l'ENL cette année, c'est quoi?
Bah, c'est la solidarité, le courage, comme, enfin, j'ai envie de dire, comme un peu chaque année, quoi. C'est ça, quoi. Et,
pour moi, le point fort, tu ne le cites pas, c'est votre coach. Vous avez un super entraîneur qui était déjà à l'époque un très bon joueur.
Oui, c'est vrai.
Contre lui. Et donc, c'est un très bon coach, très bonne recrue que vous avez fait donc, l'année dernière.
Ouais, enfin,
qu'il a pris la place de
l'équipe B. Il avait l'équipe B d'abord, voilà. Et après.
Très bon coach.
Tu peux le citer, hein, parce que
Christophe Richaud.
Voilà, Christophe Richaud.
Christophe Richaud qui est de Saint-Flour, qui a joué à l'époque, on était en national à l'Entendeur-Lozère. Après, il est parti sur Saint-Flour. Il a entraîné Saint-Flour. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui connaît très bien le football, où on prend beaucoup de plaisir, que ce soit pour les séances d'entraînement et qui gère très bien son équipe. Et oui, c'est vrai que c'est un point fort, quoi. Sans dénigrer les anciens entraîneurs qu'on a eus.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Vous avez eu Flobodin qui est passé
oui.
Il n'y a pas longtemps. Voilà, quoi.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que, bon. Le NL, c'est une place forte, hein. C'est pas un club comme ça qui est arrivé. Il y a toujours eu du foot à Saint-Chély, à Saint-Alban. Bon, comme tu l'as dit, il y a eu même, tu as joué dans des divisions beaucoup plus importantes que maintenant. Donc, voilà, c'est une tradition. Il y a toujours eu, c'est un pays de football. On aime le foot, on aime le NL. Et donc, bon, chapeau aux dirigeants aussi, hein, au président André Vanel qui se décarcasse pour son club dans un contexte, on le sait, hein, économique, c'est pas facile, hein, au niveau des entreprises. Bon, ne parlons pas des subventions publiques. Bon, on sait qu'il n'y en a plus. Donc, bon, chapeau à lui. Hein, donc, bon, c'est un travail de fond.
Oui, et puis en plus, c'est vrai qu'on a un peu le cul entre. Façon de parler, le cul entre deux chaises. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on. Mais par exemple, on paye les licences en Languedoc-Roussillon, mais on joue en Ligue Auvergne. Donc c'est vrai que concernant notamment les dotations, on n'a rien d'un côté ou de l'autre. Bon, après, on le veut bien parce que ça nous arrange bien de jouer en Ligue Auvergne. Au niveau des déplacements, c'est quand même intéressant plutôt que d'aller en bas. Et voilà, quoi. Oui, aussi, je voulais dire quelque chose. C'est vrai que depuis cette année, on ne fait plus la Coupe Lozère. Et ça, c'est pas un souhait de notre part. C'est le district du Cantal qui a mis la pression pour pas qu'on fasse la Coupe Lozère. Alors, on en est désolé parce que c'était aussi le moyen pour nous de nous faire connaître au niveau du département. Et, ouais. Et voilà, c'est avec beaucoup de déception qu'on peut pas la faire. Voilà, je sais pas trop.
Non, mais alors, attends, le district du Cantal, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le district de la Lozère?
Parce qu'ils jouent en division en Auvergne.
Non, mais d'accord, mais
en Auvergne, on fait partie.
Comment ça se fait que le district de la Lozère soit laissé faire? C'est ça ma question.
Ouais.
Ah, on va demander
bonne
à Patrick.
Bonne question.
Patrick, il ne fait plus partie de la DDFL. J'ai vu ça sur une TV récemment.
Tout à fait. J'ai arrêté à l'intersaison.
Ouais.
Bon, c'est vrai que c'est regrettable que le NL fasse plus la Coupe Lozère. Et donc, Vivien, tu as entièrement raison de préciser que ce n'est pas une volonté du club, parce que on l'a entendu sur le stade. Ouais. Ça y est, le NL, il s'en fout de la Lozère, il préfère jouer. Donc, tu fais bien de le préciser. Et donc, Laurent, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un peu une démission des dirigeants lozériens. Voilà, tu prends une pression du district du Cantal, mais voilà, tu as qu'à leur dire, je vois pas pourquoi, alors ils font plus la Coupe du Cantal, ils font la Coupe Lozère. Tu aurais pu dire ça aussi, puisque comme Vivien te le dit, tu payes les licences, tu les payes pas à la Ligue Auvergne, tu les payes à la Ligue Languedoc-Roussillon. Donc la DDFL fait bien partie de la Ligue Languedoc-Roussillon. Donc voilà, bon, les dirigeants lozériens, finalement, se sont fait un peu atomisés par ceux du Cantal. Bon, c'est assez incompréhensible. Je pense que c'est pas une bonne chose et on aurait dû plus se battre pour que justement l'ENL puisse continuer à jouer cette Coupe Lozère.
Oui, parce que ça fait baisser un peu le niveau de cette Coupe Lozère. S'il manque une des deux plus grosses équipes, ça n'a ni queue ni tête.
Parce que bon,
tu me l'apprends, je le savais.
Non, mais tu vois Langogne. Langogne joue aussi en Ligue Auvergne. Bon, ils jouent pas dans le district du Cantal, mais dans le district de la Haute-Loire. Bon, ben, c'est pareil. Si vous dites la Haute-Loire, dit un jour à la DDFL, bon, mais Langogne, ça y est, il joue plus la Coupe Lozère.
Non, mais
exactement. C'est complètement. C'est ubuesque, c'est surréaliste. Alors, c'est vrai que des fois, ça posait des problèmes. C'est peut-être pour ça que le Cantal a dit ça. Alors, dans le calendrier, des matchs remis, il faut caser la Coupe. Bon, le NL a beaucoup de matchs remis. Alors, il y a la coupe du Cantal, la Coupe. Mais bon, on a quand même toujours réussi à trouver des dates. Il y a des matchs en semaine, tu peux jouer. Bon, à l'ENL, il y a un éclairage qui permet de jouer en nocturne, en milieu de semaine. Donc, des solutions, tu en trouves toujours. Mais donc, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi la DDFL s'est laissé damer le pion par le district du Cantal.
Ouais, c'est bien de l'avoir précisé, de l'avoir dit, parce que c'est vrai qu'en plus pour vous, c'est une fête de pouvoir jouer en Lozère, vous qui jouez toute l'année en Auvergne.
Ils ont fait des finales, au chapitre, ils ont joué le jeu, donc on voyait bien que ce Coupe Lozère, ça les intéressait, parce que sinon, bon, s'ils avaient été éliminés chaque fois au premier tour en envoyant l'équipe C ou D, bon, ok, on aurait compris. Mais là, ils ont joué le jeu plusieurs fois, ils sont à la finale, bon, je me souviens moi d'une finale. Bon, donc voilà, donc ça veut dire que le NL est intéressé par faire la Coupe Lozère.
C'est vrai.
Ok, mais non,
c'était intéressant aussi pour nous, les autres équipes, de voir évoluer l'ENL, puisque bon, on n'a pas tellement l'occasion de monter vous voir jouer.
Venez, vous verrez du beau football. Hein.
Oui, mais on viendra. Mais bon, là, actuellement, moi, j'ai pas les pneus neige sur ma voiture.
Bonnet.
Donc c'est regrettable, ouais. Bon, bref.
Ok, ben c'est noté. En attendant, ouais, très beau début de parcours de l'ANL qui est 9e avec 20 points, 7 points de Vichy, mais avec 2 matchs en moins, on va vous suivre. Mmh. Et pourquoi pas essayer de monter, hein, je comprends que tu prennes des pincettes, qu'on a le temps, mais nous on y croit. Aurélien ?
Et du coup, s'ils sont 9e, mais si les réserves ne peuvent pas monter, il faut lire le classement un petit peu différemment alors.
C'est-à-dire que le 6e peut monter.
Dans le classement, il y a 4 réserves qui sont devant vous. Ouais. Donc du coup, avec vos 2 matchs en retard, vous pouvez avoir cette ambition-là.
Oui, c'est vrai. En plus, il y a un match important. Dans 15 jours, déjà la semaine prochaine, on reçoit Cournon, et après dans 15 jours on va à Vichy, je crois qu'ils sont premiers, non ?
Ils sont premiers,
oui, Vichy premier.
On va jouer à Vichy.
Mais Vichy, c'est pas une réserve.
Et donc, ouais, non. Vichy peut
donc
monter.
Donc c'est match à gagner. Quoi.
Tu as raison, Aurélien, il n'y a que 4 équipes devant finalement.
Ouais.
Et vous avez 2 matchs en moins, les autres.
Oui, mais à ce moment-là, est-ce que la Ligue ferait monter quand même le 5e ? Admettons, vous finissez 5e derrière 4 équipes réserves. Est-ce qu'il le ferait monter quand même ?
Je pense, ouais.
Je pense parce que c'est un règlement au niveau de la fédération, puisque le CFA2 est géré par la fédération. Et donc, tu dois avoir dans chaque Ligue quelqu'un qui monte.
Oui.
D'accord. Ouais. Donc vous allez bientôt monter à CFA2.
Donc ça on n'a pas dit trop de conneries.
Donc. Soustraction,
on va se calmer, s'il vous plaît.
On va sortir les calculettes et puis...
Ouais. Ah, purée. Le allez. Président de l'ENL, il est aux anges déjà. Là.
Non.
Allez, merci Vivien, tu restes avec nous. On va faire une petite pause musicale. Et on va passer à l'actualité nationale et internationale. Un dernier mot, vas-y.
Oui, non, c'était juste voilà pour faire un petit message pour les U19 qui jouent en Coupe Gambardella. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc, ils sont sortis de la Ligue d'Auvergne. Et ils vont jouer un match à Paris-le-Monial en Saône-et-Loire. Donc voilà, c'est bon pour le...
Mandossi, c'est
voilà,
pareil.
Voilà. C'est pareil. Bravo aux jeunes de François Fay qui ont aussi passé ce tour et qui auront, eux, la chance de recevoir, puisque je vois que vous partiez,
Béziers, non ?
L'équipe de Béziers qui joue en excellence. Voilà. Donc c'est encore jouable.
Une victoire au pénalty.
Dernier match, ça a été difficile. En plus, contre une équipe de district, c'était contre Terre de Camargue. Alors Terre de Camargue, c'est chez ces Barjots là qu'on parlait tout à l'heure, là, qui se disputent pour un pénalty en fin de match. Et du coup, on a gagné au pénalty, mais on a gagné en Coupe de France, enfin en Coupe, n'importe quelle Coupe, il faut gagner, quoi qu'il en soit. Donc voilà, bravo aux U19, donc de l'ENL et de l'AFL.
Allez, c'est reparti pour l'actu nationale et internationale. On va commencer par le Classico ce week-end. Barcelone et Tri, le Real chez lui, 4 buts à 0. Patrick, rien à dire sur ce match.
Une démonstration vraiment fabuleuse à voir. C'était magnifique. Bon, en plus, moi, personnellement, j'ai toujours été plus proche du Real que Barcelone. Mais je dois reconnaître que là, c'est un jeu. Bon, on a l'impression que. On peut mettre n'importe quel entraîneur, presque même n'importe quel joueur. Bon, pas tout à fait quand même, parce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais bon, c'est magnifique à avoir joué.
Ouais, parce que si tu mets Laurent à la place d'Iniesta, il n'y a pas le même résultat à la
fin. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être.
Il y a eu 3-0.
On parle de Cruyff, on parle de Pelé, on parle de Platini, on parle de Maradona. Mais peut-être qu'un jour, il faudra aussi parler d'Iniesta.
Ouais, moi, j'étais scandalisé quand ils ont été champions du monde qu'il n'ait pas eu le ballon d'or. Parce que
tu as entièrement raison.
C'est un très, très grand joueur. Tu as vu le match, Vivien, ou pas ?
J'ai pas vu le match.
Non, tu n'as pas vu le match ?
Mais bon, j'ai un peu suivi. Et moi, étant plus supporter du FC Barcelone, j'étais plutôt satisfait du résultat. Entièrement même satisfait.
Ouais, en tout cas, rien à dire. Du coup, on se pose la question de l'entraîneur d'Ancelotti. Est-ce que c'est le bon moment pour Zidane, Aurélien, d'entraîner cette équipe, de remplacer Ancelotti ?
C'est Benitez, pardon.
J'ai un an de retard. Aurélien ?
Ça peut être son heure, effectivement. Ça fait quelques années qu'il entraîne l'équipe réserve de Madrid, la Castilla. Donc, c'est vrai qu'on sent que son heure est arrivée. Lui, apparemment, a très envie aussi. De faire le grand saut, donc je pense que ça peut être jouable dans les semaines qui arrivent.
La Castilla qui est première en 3e division espagnole, donc c'est qui 2e.
J'ai vu un reportage ce matin, il disait qu'ils étaient 2e. Ouais.
Ah, d'accord.
Je crois qu'ils ont fait le nul.
Ouais, ils ont pas eu quelques
donc,
matchs.
S'ils gagnaient hier, ils étaient premiers.
Ah, bon, peut-être, ouais.
Mais enfin bon, toujours est-il que ça marche bien pour lui en tant que coach.
Oui, après, l'effectif de la réserve du Real, c'est pas le même que des autres équipes hein, non plus. Patrick, c'est le bon moment pour Zidane ?
Il faut qu'il se lance. Hein. Ça fait un moment, là, bon, il passe ses diplômes, il a fait. Bon, il est allé à Limoges, là, cette fameuse formation là, qui permet de gérer un club de A à Z. Bon, il entraîne maintenant cette réserve depuis quelques années, saisons. Voilà, deux saisons. Mais, bon, si vous voulez mon avis,
oui, on
précis,
veut ton avis.
Bon, je le sens pas.
Tu le sens pas ?
Non, je sens pas Zidane vraiment comme un coach qui pourra vraiment avoir des résultats et qui pourra marquer de son empreinte en tant que coach comme il a pu le faire en tant que joueur. Je sais pas, sa personnalité, sa façon d'être, je pense pas que ce soit vraiment.
Il est pas charismatique, oui.
Voilà, mais bon, c'est pour ça que je le sens vraiment, je sens pas. Je sens pas Zidane faire une grande carrière d'entraîneur.
Laurent ?
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que. Je pense qu'il peut faire un bon entraîneur, il n'y a pas de raison. Le seul bémol que je mettrais, c'est peut-être attaquer directement par le grand Real Madrid pour
voilà,
un entraîneur
la
qui n'a pas d'expérience
bien,
pro. C'est peut-être un peu trop de pression d'entrée. Je pense qu'il prendrait une équipe un peu second tableau, second couteau.
Marseille,
voilà. Ouais.
Non, mais il aurait très bien pu être entraîneur de Bordeaux, mais il n'a pas voulu. Donc il n'a pas voulu aussi se mettre en danger avec, c'est vrai, que ce que Sagnol a fait. Bon, Sagnol, il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a, ouais. Comme Mitchell fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a. Bon, c'est plus facile, c'est vrai, d'entraîner Paris Saint-Germain que Bordeaux ou Marseille.
Vivien, même question, Zidane, c'est le moment ?
C'est une opportunité, peut-être il n'en aura pas énormément. C'est vrai qu'il en a une belle à prendre. Pour, enfin, encore, on n'y a pas proposé la place non plus. Mais ouais. Bon, je pense qu'au niveau du vestiaire, c'est quelqu'un qui va très bien passer parce qu'il connaît déjà les joueurs. Après, je partage l'avis de Patrick. Je le sens pas forcément non plus. Je sais pas, mais
peut-être qu'il vaut mieux qu'il soit dans un grand club.
C'est
parce
un peu subliminal, moi, mais c'est vrai, je le sens pas.
Des grands joueurs peuvent respecter un mec comme Zidane pour son passé aussi.
Déjà, il a la légitimité par rapport à ça. Il a le respect du vestiaire.
C'est vrai.
Ce qu'apparemment n'a pas Benitez aujourd'hui au Real. Il a l'air très controversé dans le vestiaire. Donc, est-ce que l'arrivée de Zidane ne va pas apporter ce respect-là qui manque et
Non mais Benitez c'était déjà une grosse erreur parce que hormis il y a 10 ans à Liverpool où il a tout gagné, c'était une saison. Après depuis partout où il est passé c'était un échec.
Non mais c'est clair Benitez pour moi n'est pas un entraîneur de top niveau.
C'est un loser.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon après comme je répète que Laurent Blanc n'est pas l'entraîneur qui permettra au PSG de gagner la Coupe de la Ligue des Champions. Bon mais ça c'est quelque chose que je ressens mais bon peut-être que je me trompe.
Moi je suis pas sûr.
On verra cette année mais je ne pense pas que Laurent Blanc ait les capacités tactiques dans ces gros matchs face à Barcelone, de pouvoir contrecarrer ce jeu barcelonais qui a été éclatant samedi.
Allez, cela dit, Madrid est quand même une très grande équipe et ils n'ont pas réussi non plus à contrecarrer le Barça. Qui peut contrecarrer le Barça aujourd'hui?
Non mais Madrid ils sont dessous depuis le début de la saison, de toute façon on a vu, ça, c'est pas ça. On parle d'entraîneur Laurent, oui. Antonetti à Lille c'est une bonne destination, non?
Ah non, très mauvaise, Antonetti est un sudiste, il a pas du tout le tempérament d'un nordiste, pardon, et donc il a rien à faire dans ce club là-haut, il va s'ennuyer, profondément, il va s'ennuyer.
Ouais. D'accord.
J'ai vu des séances d'Antonetti quand il entraînait à Nice, je peux vous dire c'est un spectacle. Ouais. Mais à Lille, ça passera pas quoi.
Patrick.
Antonetti a une énorme expérience. Il a 500 matchs en Ligue 1 en tant qu'entraîneur. Bon, il a lui par contre une personnalité, un charisme incontestable. Bon, après à Lille, il va remonter la situation parce que bon, à Lille, il y a quand même des joueurs, mais il fera pas de miracle parce que de toute façon, Lille n'est plus dans le projet qui était le sien il y a quelques années. Donc Lille est très éloigné de ce que c'était avant.
L'erreur qu'il a fait, c'est qu'il aurait dû attendre 15 jours de plus ou la trêve et il serait allé entraîner Bastia. Parce que Bastia est un dégringolade.
Ils lui ont proposé déjà, il veut pas y retourner.
Ah ouais.
Ouais, ils lui ont proposé il y a quelques mois et
alors
il
veut pas y aller. Alors on propose Bastia ou Lille, tu vas à Lille toi.
Mais bien sûr.
Il y a quand même plus de moyens à Lille que Bastia.
Pour entraîner. Ouais, t'es un stade couvert, tu t'en fiches, t'as pas froid.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Que... Financièrement, c'est peut-être pas pareil aussi.
Incontestablement, je pense que Vivien tient entièrement raison.
Ouais. Allez, basket vite fait, on parle souvent de NBA dans cette émission, Aurélien. Golden State a égalé le record du meilleur début de championnat pour une équipe NBA.
C'est ça, 15e victoire d'affilée sur 15 matchs. Ça fait rêver, hein. C'est vrai que
surtout quand on joue
ça fait rêver. Ils ont égalé le record qui était jusque-là détenu par les Houston Rockets début des années 90.
93,
Olajuwon, c'est ça. Il y avait quoi, Olajuwon,
Hakeem
the Dream.
Et donc ils peuvent battre le record absolu et aller chercher une 16e victoire d'affilée. À noter que sur ce dernier match là, Stephen Curry qui est la grosse star MVP de la saison dernière. La grosse star de l'équipe n'a marqué que 19 points, entre guillemets. Et donc, il est un petit peu passé à côté de son match.
Il a une petite faiblesse.
Clay Thompson est revenu.
Ouais, voilà, ça prouve aussi qu'il n'y a pas que lui dans l'équipe et c'est une grosse, grosse équipe à surveiller pour le titre. Ils ont été déjà vainqueurs NBA la saison dernière et ils repartent sur des bases stratosphériques.
Alors, sur nos paris et pronostics sur le champion NBA, Laurent avait parié sur Golden State, je crois. Hein,
mais c'est un spécialiste.
C'est ça, Laurent. Non,
c'est pas
il a vu j'avais le potentiel de cette équipe.
J'avais parié sur Portland, qui après
ne va pas se qualifier pour les playoffs.
Très gros trou d'air de 7 défaites d'affilée, a enfin gagné les Lakers ce week-end, enfin hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus, de 3 ou 4 points. Et donc, bravo aux Portlandais.
Ouais. Les Lakers qui jouent contre Golden State le prochain match.
Ah ouais, mais là, c'est la rousse.
Qui vont prendre cher.
Qui vont prendre une rousse. Allez, il reste pas de temps, donc on va te dire un dernier mot quand même sur Jonah Lomu. On n'en a pas parlé vu qu'il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. Ce grand homme du rugby mondial, Patrick.
Qui a jamais été champion du monde. Ça restera, la seule petite tâche sur son immense palmarès. Il a été champion du monde, mais à 7, pas à 15. Mais bon, voilà, il a fait passer le rugby dans une autre dimension. Il a permis à ceux qui n'étaient pas vraiment des connaisseurs du rugby s'intéresser à ce sport, parce que c'est vrai qu'il était hors norme et on a revu les images. Il y a un essai contre les Français et bon, voilà, il fait des pim-pam-poum et il y en a 5 ou 6 qui sont, d'ailleurs, on voit un Tamac qui essaye de le bloquer mais qui n'y parvient pas. Donc, immense joueur, qui a fait passer le rugby vraiment dans la France entière et dans le monde entier, même chez ceux qui ne connaissent rien à ce sport.
Un très grand monsieur aussi en dehors du terrain, il était très respecté aussi des joueurs et des sueurs du rugby, une personnalité très attachante, donc c'est vrai que ça va laisser un gros vide dans le rugby mondial.
Ouais. Et puis c'est vrai qu'à 40 ans, décédé à 40 ans, c'est vrai que c'est dramatique.
Ouais, c'est dur. Un petit rendez-vous, alors si vous entendez cette émission mercredi lors de la rediffusion, ça tient pas, mais un petit rendez-vous pour nos auditrices ce soir sur France 3. Le journal à 20h30, n'hésitez pas, et Aurélien sera
France 3, Languedoc,
en invité en prime time.
19h,
donc nombreuses devant la télé.
Et moi, je voulais passer un petit coucou à tous mes collègues supporters de Saint-Etienne aussi. Je voulais leur présenter toutes mes amitiés les plus sincères.
Et félicitations à Mananda.
Ouais.
Ouais. Allez, merci les gars, merci Vivien.
Merci à vous.
Allez, longue vie à l'ENL et on espère bien que vous allez monter. Nous, on y croit. On le dira chaque semaine. Tiens, il se rapproche de la montée.
Malgré ce que Vivien nous a dit, mais nous, ouais. On le dit.
On le dit, ils vont monter. Voilà. Allez, ciao, à une prochaine. Salut les gars.
Salut.
Au revoir. Bye bye.
Les Street John au couloir en numéro 2, allez les Street, c'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Supermarket, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.